Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Dominique Fernandez. Je suis tout à fait heureux de vous voir à Bordeaux. J'allais dire de nouveau. Je ne sais pas s'il faut dire de nouveau, encore, une fois encore à Bordeaux. En tout cas, on disait dans la coulisse, là, dans la chapelle latérale, que vous êtes vraiment un Bordelais d'honneur. Et quand même, s'il y a une des choses dont je m'enorgueillis dans ma vie, il y a peut-être deux ou trois en cherchant bien, mais enfin, il y en a une, c'est que je suis le premier à vous avoir fait venir dans cette ville. Oui, oui. Alors, on ne dira pas il y a combien d'années.
Si, mais, moi, je vais vous le dire, oui. il y a 31 ans.
Il y a 31 ans, voilà. C'était l'époque où j'organisais des conférences qui s'appelaient les Nouvelles Conférences de Bordeaux. Et Dominique Fernandez est venu pour la première fois. Après, il est revenu souvent, et toujours pour notre plus grand plaisir. Et évidemment, c'est il y a 31 ans, je me souviens, que je vous avais demandé une conférence sur l'Italie, naturellement. Bon. Et je crois que nous allons quand même un peu parler d'Italie ce soir, de nouveau, puisque ce dictionnaire amoureux est consacré à Stendhal, et que Stendhal était lui aussi... Vous avez écrit un livre qui s'appelait « Le promeneur amoureux », vous. Il y a combien d'années ?
20, peut-être.
Le promeneur amoureux, un très joli livre, et les promenades, c'est des promenades italiennes.
Donc, c'est un promeneur amoureux plus ancien encore.
Oh, je crois 35 que c'est plus ancien. Ans, oui. Je crois que c'est plus ancien, le promeneur amoureux. Et ce dictionnaire amoureux, donc, est consacré à Stendhal. Il y a des gens qui disent Stendhal. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Ça, je ne sais plus, tout d'un coup. Ah. Stendhal, moi, Stendhal. Dis, mais je ne sais pas si c'est correct.
Voilà. On va dire Stendhal, puisque... Et je voudrais d'abord que vous... Après tout, vous appartenez à une institution prestigieuse qui s'appelle l'Académie française, et dont on sait que... Une des occupations, et notamment, n'est-ce pas, de rédiger un dictionnaire... Comment fait-on un dictionnaire ? Alors, peut-être rapidement, comment fait-on le dictionnaire de l'Académie française, si vous allez aux séances ? Et deuxièmement, comment fait-on un dictionnaire amoureux ? Je suppose que ce n'est pas du tout la même méthode.
Non, pas du tout. Non, le dictionnaire de l'Académie française, c'est passionnant. C'est le jeudi matin. Ce sont des bénévoles qui vont. On est 6 permanents. Parce qu'il faut se lever tôt, enfin tôt, relativement tôt. Et c'est absolument passionnant, parce que moi j'apprends... On fait mot par mot, c'est très lent, tout le monde se moque de cette lenteur, mais parce que la langue change avec l'histoire, avec les mœurs, avec les... et puis il y a tous les nouveaux mots, il y a 40 000 nouveaux mots qui demandent à entrer, des technologies nouvelles, de la médecine, de tout ça. Il faut savoir s'il faut les faire entrer, s'il y a beaucoup d'anglicisme, enfin c'est un gros travail. Et puis surtout, les mots importants, le mot « femme » par exemple... Dans la dernière édition, en 1935, eh bien, femme, c'était défini compagne de l'homme. Donc, vous voyez que tout ça est vétuste, tout ça vieillit très vite. La femme n'existait pas en tant que toute seule, c'est la compagne de l'homme. Et il y a mille choses comme ça. Et donc, on prend un mot, on est à la lettre R en ce moment, mais ça, quand on a fini, il faudra recommencer, etc., sans arrêt. On est à la 7e ou 9e édition, je crois, depuis 1684, la première édition du dictionnaire. Et on discute, on définit, on fait des exemples. Et moi, j'apprends ma langue, que je savais d'instinct, mais là, j'apprends pourquoi, comment c'est fait. Enfin, c'est absolument passionnant.
Alors, et le dictionnaire amoureux, alors.
Oui, alors là...
C'est autre chose.
Le dictionnaire amoureux, c'est moi qui ai eu l'idée, hein, c'est moi qui ai créé le concept.
Ah oui ?
Oui, parce que j'avais écrit, il y a 20 ans, un voyage qui s'appelait « Voyage d'Italie », sous-titré « Dictionnaire amoureux ». Et Jean-Claude Simoen... de chez Plon, qui a repris l'idée Et il s'est dit, tiens, on va faire une collection de dictionnaires amoureux de tout, des gens, des pays, des villes, le vin, enfin tout ce qu'on veut. Et il m'a rendu la paternité, d'ailleurs, dans la préface du voyage amoureux d'Italie que j'ai fait.
Voilà.
Et donc, l'avantage de ce mot amoureux, c'est que ça évite le côté scolaire, le côté exhaustif, le côté obligatoire d'un dictionnaire, et qu'on parle de ce qu'on a envie, de ce dont on a envie de parler, et puis le reste, on n'en parle pas. C'est ça qui est intéressant dans cette idée. Ça met de l'affectivité, de la subjectivité dans un genre qui est apparemment un peu rébarbatif. Donc, c'est plus du tout un dictionnaire comme ça, sérieux et complet. C'est ce que l'auteur aime dans le sujet qu'il traite.
Oui, le côté subjectif, le côté extrêmement personnel, on va y revenir à propos d'un certain nombre d'articles. Et effectivement, ce n'est pas un travail de lexicographie, c'est un travail d'écrivain, au fond, simplement. C'est pas d'écrivain et d'écrivain amoureux de son sujet. Les amoureux de leur sujet, moi je me souviens, pas mal d'années, il y a quelqu'un qui a dit, alors je ne sais pas si j'ai pas pu lire, l'intérêt d'un dictionnaire, c'est qu'évidemment, sauf peut-être des gens très désireux d'apprendre et qui s'emparent du petit Larousse et puis qui commencent à la lettre A et puis qui vont jusqu'à la dernière, n'est-ce pas, ça ne se lit pas comme ça d'une manière continue. Donc on pioche, on cherche, tiens, cet article-là, voyons, Bologne par exemple, qui est une des villes d'Italie que je préfère, qu'est-ce qu'il en dit. Donc ça se lit comme ça par espèce de ponction que l'on effectue dans le texte, du coup, je ne sais plus où je voulais du tout en venir. Si, on disait à un certain moment, je ne sais pas si ça figure dans le livre, il y a quelqu'un qui a dit, ce sont les spécialistes de Stendhal qui vous dégoûtent de Stendhal.
Bon, en général, pardon, mais les spécialistes vous dégoûtent de tout. Non, ça c'est. Ben oui, c'est. Et moi je.
Alors vous avez. Alors justement, il ouais. y a un article tout à fait vers la fin, sur les Stendhaliens et les Stendhalistes.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui distingue les uns des autres?
Alors, c'est mon idée. Hein. Les Stendhalistes, ce sont les érudits, les professeurs, qui sont essentiels, indispensables, parce qu'ils établissent les éditions. Et pour Stendhal, c'est très important, parce qu'il y a très peu de ses livres qui ont été publiés par lui-même. La plupart sont posthumes. Et donc, souvent, le manuscrit de Lucien Leven, par exemple, je l'ai vu à Grenoble, ce sont des petits bouts incohérents. Il a fallu faire un montage pour essayer de reconstituer le roman qu'il n'a jamais pu finir lui-même. Et puis, il y a tous les posthumes, toutes les autobiographies, La vie d'Henri Brûlard, la correspondance, bien entendu. Tout ça, il faut des gens qui étudient microscopiquement les variantes, tout ça. Ça, c'est les Stendhalistes. Puis ils font des thèses, après, des grosses thèses sur le peut-être sur est-ce qu'il y a une chartreuse à Parme. On conclut au bout de 800 pages, non, il n'y a pas de chartreuse à Parme. Ou bien qui étudient un point particulier chez Stendhal. Bon, ça intéresse ça assez peu de gens. Mais en tant qu'éditeurs, ils sont indispensables pour établir les éditions. Les Stendhaliens, ce sont les amoureux de Stendhal, qui peuvent être des gens qui s'y connaissent très bien, en Stendhali, mais aussi qui peuvent avoir lu simplement un, deux, trois livres, et puis trouver ça épatant. Voilà. Et par exemple, dans les Stendhaliens, il y a des critiques littéraires, mais il y a aussi, par exemple, un des meilleurs, c'est Léon Blum. C'est étonnant. Hein, Léon Blum, avant d'être l'homme politique qu'il est devenu, était un critique dans une revue d'avant-garde qui s'appelait la Revue Blanche, où Gide écrivait. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Belle et le bellisme », qui est réédité constamment, qui est une merveille de critique littéraire. Paul Valéry a écrit une longue préface à Lucien Leven. Et Jean Prévost, bien sûr, a écrit Thibaudet. Enfin, c'est ça, les Stendhaliens, ce sont les... Jacques Laurent aussi, qui était un romancier. Il y a beaucoup de romanciers qui... Ce sont les gens qui aiment Stendhal, qui ont un commerce familier avec lui, mais qui ne sont pas des érudits. Donc, et ça, je crois qu'il n'y a que Stendhal... Enfin, il y a d'autres écrivains, évidemment, qui provoquent ces deux familles. Mais pour Stendhal, c'est très, très net.
Alors, dans quelle catégorie vous mettez-vous là?
Ah, moi, je suis stendhalien, voilà. Je ne suis pas érudit tout. Moi, je profite c'est des bon. Travaux des érudits, ouais. Mais personnellement, je n'ai pas... Par exemple, dans la Pléiade, ils ont enfin établi un Lucien Leven correct, parce que les premières éditions, c'était fait de arbitrairement, c'était des montages arbitraires. Maintenant, ils ont étudié les manuscrits, une équipe pendant 6 mois, une équipe de 10 personnes a étudié pour vraiment essayer au maximum de reconstituer la véracité de ce que Stendhal voulait faire. Alors ça, c'est formidable, mais moi, je suis un amateur de Stendhal, amateur et au sens italien, c'est-à-dire qui aime, et je lis Stendhal et relis, et voilà.
Alors, Stendhal, c'est un peu compliqué de poser des questions sur un dictionnaire, j'ai déjà insisté sur cet aspect-là, et comment s'y prendre. Alors, je me suis dit, on va essayer de... se cantonner dans un certain nombre de domaines. Il y a énormément d'articles, évidemment, il y a même un article consacré à François-Marie Bagnier. Bon,
qui a... Deux lignes.
Oui, ça s'appelle un article dans un dictionnaire. Oui. Il y a une entrée Bagnier. Bon, ça m'a un tout petit peu étonné. Donc on ne va peut-être pas s'étendre, si j'ose dire, sur François-Marie Bagnier. On va essayer peut-être de parler de ce qui a essentiellement occupé Stendhal lui-même.
Oui.
Voilà. Et il me semble qu'il y a 3 domaines qui comptent plus que tout pour lui. C'est l'amour, les femmes, c'est la musique et l'Italie.
Oui. Bon. Peut-être faudrait prendre les choses dans l'autre sens.
Parce Alors, que... dans l'autre sens.
L'Italie d'abord, parce que les femmes et la musique, ça a dépendu
oui, ça
de l'Italie.
Dépend. Alors, on va commencer par l'Italie. Et je vais même commencer par une question. Il y a un article sur la tombe, bien sûr, de Stendhal, avec l'épitaphe qu'il s'était lui-même choisi. Vous expliquez, vous allez peut-être le redire, là, qui est... C'est pas tout à fait ce qu'il voulait, mais non. Enfin bon, on a pris des libertés avec ses propres désirs. Et sur sa tombe, tout le monde, tous les Stendhalistes et les Stendhaliens et les autres le savent, et il a voulu qu'on mette Milanese.
Oui, voilà. Milan, habitant de Milan.
Habitant de Milan.
C'est la ville qu'il préférait.
Or, vous, Dominique Fernandez, dans ce dictionnaire amoureux, dont vous avez souligné tout de suite le caractère subjectif et personnel, autant que je sache, mais peut-être que je me trompe, si ce n'est pas l'Italie du Nord que vous préférez, Milan n'est pas votre... Vous ne souhaitez pas comme épitaphe, Dominique Fernandez, Milanese, n'est-ce pas ?
Non.
Vous préférez le Sud, voilà. Alors parlez-nous de son amour pour Milan ou parlez-nous
Mais,
de...
L'Italie a beaucoup changé, hein, c'est parce que l'Italie du Nord et du Centre est devenue européenne, donc banale, c'est banalisé. Et pour moi, la vraie Italie reste à partir de Naples seulement et la Sicile. Mais du temps de Stendhal, c'est en 1800, toute l'Italie avait encore un caractère formidable. Puis Milan n'était pas une ville industrielle, c'est une petite ville. On voit ce que c'était d'après le centre qui reste autour de Brera, Viabili, tout ça. C'est très beau, des palais. Et puis surtout, il y avait le plus grand opéra, qui est toujours le plus grand opéra du monde, qui est la Scala. Et l'amour de... On va en parler, tout ça se tient. L'amour de Stendhal pour l'Italie est lié d'abord à l'opéra, même avant les femmes. Parce qu'à 17 ans... Il était soldat, sous-lieutenant dans les armées de Bonaparte. En 1800, il franchit les Alpes sur un cheval, très maladroit, il tombe d'ailleurs. Et il arrive dans le Piémont, la première ville, qui s'appelait Ivrea, qui est près de Turin. Et là, il va à l'opéra, parce qu'il y avait des opéras tout le temps, comme des films aujourd'hui, ici en France. Et il entend le mariage secret, le matrimonio segreto de Cimarosa. Et il a une espèce de d'éblouissement. Il n'était jamais allé à l'opéra. Évidemment, à Grenoble, il n'y avait pas d'opéra, pas de musique. Il a un éblouissement, un transport. Il tombe raide amoureux de la musique, de Cimarosa. C'est une espèce de Mozart italien. Et ça, c'est expérience fondatrice pour lui. La musique vocale, hein, parce que la musique instrumentale n'intéressait pas du tout. C'est la musique vocale et cette musique 18e. Et il dit, c'est très amusant, parce que dans son autobiographie, il ne parle pas du tout du caractère de cette musique. Il dit simplement, ce qui me reste de cette soirée, c'était que dans la bouche de la chanteuse, il manquait une dent de devant. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est tout Stendhal est là. Parce qu'un autre, plus convenu, aurait dit au troisième acte, il y a un air magnifique, ou bien j'ai aimé le caractère mélodieux. Lui, rien de tout ça. C'est là-dedans qui manque sur la bouche de la cantatrice. Et ça l'a tellement frappé que c'est lui son opéra préféré. C'est ça qui est complètement fou chez Stendhal.
La phase exacte, oui. C'est ça que vous citez. L'actrice qui jouait Caroline avait une dent de moins sur le devant. Voilà tout ce qui me reste d'un bonheur divin.
Ouais, voilà. Ben c'est ça qui est inouï, c'est que tout ce qui fait l'essence du bonheur, on ne peut pas l'écrire. D'ailleurs, il a dit quelque part aussi que le bonheur ne peut pas s'écrire, ou bien on le perd si on l'écrit. Donc il reste ce souvenir visuel. Alors après, donc, il arrive à Milan, et là, qui était autrichien hein, à l'époque, c'était une occupation autrichienne. Et il va à la Scala, qui existait déjà, tel qu'aujourd'hui, et il y avait alors des grands spectacles. Et la Scala est faite de loges, vous savez, comme tous les opéras italiens, il n'y a pas d'amphithéâtre, il y a un parterre, et puis cinq ou six rangs de loges. Et les grandes familles avaient possédé chacun une loge, on possédait sa loge, et Stendhal, qui était introduit dans ces familles, allait avec tel ou tel dans une des loges. Et il allait en compagnie de jolies femmes, dont il tombait amoureux tout de suite. Et son plaisir d'aller à l'opéra, c'était la musique, mais c'était surtout d'être assis à côté de jolies femmes. Et les loges, à cette époque, servaient à faire la cour aussi. On n'était pas pétrifiés devant le spectacle, comme aujourd'hui on l'est. Il n'y avait pas ce côté révérencieux. Même maintenant, on peut s'embêter à crever, on applaudit jusqu'au bout là-bas. Si on trouvait le spectacle embêtant, mais les gens parlaient entre eux, ils mangeaient des glaces. Derrière, il y avait des rideaux à ces loges. On pouvait tirer le rideau et puis faire salon, comme ça, en attendant en attendant l'air qu'on aimait. Ou si un chanteur était mauvais, on ne l'écoutait pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'était le salon où il retrouvait les jolies femmes et il faisait sa cour. Et je crois que c'est pour ça qu'il a aimé l'Italie. Vous voyez, il a aimé les femmes parce qu'italiennes et liées aussi à la musique. C'est tout Stendhal, là. C'est complètement irrationnel. Hein. C'est à la fois jeté que lui-même n'a pas eu. Il se considérait laid. Il n'était pas très beau, sans doute. Il était gros. Il pesait 100 kilos. Il était mal bâti. Il avait les cheveux teints. Et il tombait amoureux de très jolies femmes, des comtesses. Il a été très malheureux en amour. En fait, il a été trompé. Il a eu quelques succès.
Est-ce qu'on peut, avant d'en venir aux femmes, puisque oui. Vous-même vous avez suggéré qu'on commence par l'Italie,
oui.
Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin en Italie? Donc là, vous avez parlé de Milan, de la raison pour laquelle il a voulu s'appeler Arrigo.
Arrigo Belle.
Arrigo Belle, milanese, sur sa tombe. Mais alors, il a aussi écrit... Rome, Naples, Venise.
Et Florence.
Rome, Naples, Florence. De ces trois villes, alors laquelle est la plus importante à ses yeux, ou peut-être que cela change au fil des années?
En fait, la plus importante n'est pas dans le titre à cause de la censure autrichienne, parce que il voulait mettre Milan. Florence, il n'aimait pas du tout. Hein, il n'aimait pas Florent.
Comme mais vous.
Il aurait dû mettre Milan. Rome, et Naples. Il aime Naples, il n'a pas beaucoup vécu, mais il a aimé. Mais il s'est dit que s'il y avait ça sur le titre, le livre serait lu par les autorités autrichiennes et censuré, parce qu'il y a toujours des choses irrespectueuses vis-à-vis des autorités. Donc il a gommé Milan. Mais dans le livre, il s'agit essentiellement de Milan, de Bologne d'ailleurs, qu'il préférait beaucoup à Florence, de Rome bien sûr, il a vécu à Rome, il a écrit aussi les promenades dans Rome, et puis Naples, qui peut-être a été sa ville préférée, mais il n'y a pas vraiment vécu. Hein. Il avait peur un petit peu, enfin comme les gens encore aujourd'hui. C'était. Mais il a senti que c'était quand même là la vivacité.
La Saronie.
Oui, non, mais c'est quand même la vivacité. Il dit quand on vient de Naples à Rome, on trouve ça assez ennuyeux, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Rome, c'est la province par rapport à Naples. Naples, c'est la vie, c'est extraordinaire encore aujourd'hui. Et Rome, c'est officiel, c'est des gouvernements, des diplomates, enfin, c'est beaucoup plus. Il y a un couvert comme ça qui pèse sur la ville, tandis que Naples, c'est la vitalité, c'est l'expansion, c'est la joie de vivre, c'est la débrouillardise aussi, c'est très amusant, c'est le théâtre.
Alors, ce qui est intéressant dans un dictionnaire et dans une conversation comme celle-là, c'est que chaque article comporte ses renvois. C'est-à-dire que, bon, par exemple, là, vous venez pas de parler de Naples, tout ce qu'il raconte sur Naples, mais tout ce qu'il raconte sur Naples n'est pas forcément exact. Et alors, il y a un article qui s'appelle « Mystification ». Il raconte beaucoup de choses qui sont du pipeau, des bobards, enfin.
Oui, mais c'est
notamment son ascension du Vésuve, par exemple.
Oui, oui. C'est un mystificateur. Il raconte. Il y a un grand opéra aussi à Naples qui s'appelle San Carlo, qui est très beau, peut-être plus beau même que la Scala. Et il a brûlé à la fin du XVIIIe, il a été reconstruit et a été inauguré en 1817. C'est un grand événement européen. Et Stendhal le décrit dans ses livres. Il décrit même comment étaient habillés les valets, tout ça. Et en réalité, ce jour-là, il n'était pas à Naples. On l'a établi, ça. Les Stendhalistes ont établi qu'il était à Paris ou je ne sais pas où. Et il prétend être allé en Sicile, il n'est jamais allé. Il aimait bien mystifier, hein, de même qu'il a 200 pseudonymes au moins, parce je ne sais même pas si on les a tous identifiés. Dans ses lettres, il signe jamais de son vrai nom, mais il varie, il change de nom selon le destinataire.
Est-ce que ça, c'est un peu une parenthèse, une digression? Est-ce que c'est pas à San Carlo, à Naples, que vous avez entendu vous-même votre
premier? Ah oui, moi j'étais à Naples. J'ai vécu à Naples à la grande époque de l'opéra, et j'ai entendu des choses sublimes. Maintenant, l'opéra est fini. Enfin, l'Italie est dans un état épouvantable du point de vue de la culture, comme vous savez. Et c'est très triste. Hein. Depuis l'ère Berlusconi, c'était un désastre. Hein. Il n'y a plus un sou, plus une subvention, plus rien. Un mépris de la culture. J'espère que ça va. Et puis maintenant, en plus, il y a la crise économique. Donc. Mais à l'époque, il y a très longtemps, même avant les années qu'on a évoquées, où j'étais professeur à Naples et j'allais tous les trois semaines, il y avait une première, et c'était les plus grands chanteurs du monde qui passaient là, c'était éblouissant. San Carlo, c'était le Milan et Naples, et la Fenice à Venise, c'était trois grands opéras italiens classiques. Mais j'ajoute, il n'aimait pas beaucoup Venise, hein. Enfin, il en parle assez peu, Il dit qu'il s'est baigné dans le Grand Canal, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire, sans risquer la mort, comme aujourd'hui, par empoisonnement ou bien. Mais ce qu'il aimait vraiment, c'est Milan, c'est Bologne, c'est Rome. Rome l'amusait, toute l'histoire. Il décrit toujours les conclaves, ça. Il serait parti tout de suite, là, aujourd'hui. Il serait installé pendant un mois pour suivre les intrigues, là, les choses entre les cardinaux. Ça l'amusait beaucoup. Mais.
Bah, quelquefois, on se demande un peu jusqu'à quel point ce dictionnaire amoureux est subjectif. Parce que vous n'avez pas une passion pour Milan. Vous n'avez pas une passion. Le Milan d'aujourd'hui, bien sûr, on a expliqué. Vous n'aimez pas Florence. Et vous n'avez pas une passion excessive pour Venise non plus. Donc. Est-ce que vous n'attribuez pas parfois à Stendhal quelques-uns des goûts de Dominique Fernandez?
Ah non, pas du tout. On ne peut pas me prendre en défaut, parce qu'il a des choses très dures sur Florence. Il dit que quand on demande à un Florentin qui il est, il répond qu'il descend de Dante. C'est-à-dire qu'ils les accusent d'être d'une arrogance sous prétexte qu'ils ont eu Dante, Pétrarque et Boccace au XIVe siècle, alors qu'il n'y a plus rien. À son temps, il n'y a plus aucune création à Florence, comme aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas. C'est une ville figée dans un passé magnifique, mais arrêtée au XVIe siècle. Et Venise, il en parle assez peu, il en parle très peu.
Alors les femmes, en revanche, ça c'est un chapitre important.
Il y a plus, oui, il y a beaucoup de chapitres.
Voilà. Donc, c'est un chapitre important dans sa vie, et c'est beaucoup d'articles dans le dictionnaire. Mais alors, tantôt, vous dites qu'il y a vraiment deux femmes qui ont compté. Tantôt, vous dites qu'il y en a quatre qui ont vraiment compté. Et parmi ces femmes, il faut aussi faire le distinguo entre les femmes qui, selon son expression, les femmes qu'il a eues et celles qu'il n'a pas eues.
Oui, mais il y en a quatre, il y en a deux qu'il a eues et deux qu'il n'a pas eues. Alors,
parlez-nous.
Donc, on compte les succès, c'est deux.
Parlez-nous de ces femmes-là.
Alors, non, celle qu'il a, c'est lui qui dit avant.
Il y en a une qui est quand même.
C'est Angela.
Angela et Mathilde.
Angela Pietragrua, qui était la femme d'un général. Très jolie femme, et les mœurs étaient très libres à cette époque. Hein. Toutes les femmes qu'il a eues étaient des femmes mariées, d'ailleurs. Et il a fait la cour, ça a duré, je ne sais plus, 11 ans, 12 ans. Tout de suite, quand il est arrivé à Milan, très jeune, à 18 ans, il a été ébloui par cette jeune femme qui devait être très belle. Et il a fait la cour, et l'autre, je ne sais pas, ça n'intéressait pas. Puis finalement, au bout de 11 ans ou 12 ans, il l'a eue. Et il décrit minutieusement, et il a mis même sur ses bretelles, il a écrit la date et l'heure.
En fin de matinée, vers 11h.
Vers 11h du matin, juste avant de partir, parce qu'il devait repartir. Et ce qui est affreux, c'est que, bon, qu'il a revu, il y a une sorte de liaison, disons, mais la femme de chambre de cette personne, qui était en conflit avec sa maîtresse pour une question, lui a dit, monsieur Bell, vous savez, à votre place, quoi ? Oui, votre madame Pietragrua, je ne sais pas s'il est très, enfin bon. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Revenez le lendemain. Alors, la femme de chambre l'introduit dans un cabinet contigu à la chambre à coucher de la dame. Et il y avait un trou dans le mur. Et Stendhal se hisse. Il regarde, il voit la dame au lit avec un autre homme. C'est quand même assez. Ça a été atroce pour lui. Hein. Ça a l'air rigolo quand on le raconte comme ça, mais il aimait vraiment cette femme. Et elle qui lui jurait la passion et tout ça, je ne veux pas employer le mot vulgaire, enfin, elle était assez légère. Et il a beaucoup souffert. Alors, il a commencé par en rire, en disant que c'est. Il a dit dans son journal, il me semblait voir des marionnettes s'agiter, mais en fait, après, c'était quand même un choc terrible. Et toutes les femmes, il a eu beaucoup de maîtresses, il n'a jamais eu de liaison longue, il ne s'est jamais marié, il ne s'est mis en ménage, comme on dit, qu'une seule fois avec une petite actrice de l'Odéon. Il raconte qu'il... Avec elle, après le spectacle, il mangeait une aile de perdrix en buvant du champagne, mais ça durait 15 jours. Alors, contrairement aux grands autres écrivains du 19e, qui ont toute une femme muse, Henri Camier pour Chateaubriand, pour Hugo, comment elle s'appelait
Juliette.
Louise Collet pour Flaubert, pour Zola, la mère de ses enfants, etc. Lui, rien. Et parmi ses maîtresses, il n'y a aucune connue, enfin aucune de. C'était vraiment des femmes qui n'existaient pas en elles-mêmes pratiquement. Simplement, il les a aimées comme ça. Et ça, c'est le seul hein, dans toute la.
Vous établissez une comparaison entre lui, Casanova et Don Juan. Et l'épisode du trou dans la cloison là.
Oui.
Ça pourrait figurer dans les mémoires de Casanova.
Oui.
Et pourtant vous le distinguez tout à fait de ces deux autres grands séducteurs.
Oui, mais Casanova, enfin, c'est encore autre chose, parce que Casanova, lui, n'avait aucun surmoi, aucun. Il n'était pas vraiment amoureux. Lui, c'était au niveau du plaisir immédiat. C'est une sensualité à l'état brut, si on peut dire. Tandis que Stendhal, il mettait quand même il mettait du sentiment, de la passion, de l'amour. Il a écrit un traité qui s'appelle « De l'amour » pour essayer de convaincre justement une autre dame de lui céder. Et ça n'a pas marché, d'ailleurs, parce que la dame n'a même pas lu son livre. Ces belles italiennes ne lisent pas beaucoup, hein, il faut dire. Et donc, il avait beau écrire des livres, c'était pour elles l'intellectuel qui manquait de ce qui leur plaisait, quoi.
De l'amour, justement, il établit une espèce de typologie entre les différentes sortes d'amour. Et l'amour-passion, c'est l'amour à l'italienne.
Voilà, l'amour total.
Par exemple, en France, non, c'est la galanterie.
C'est l'amour-vanité.
C'est l'amour-vanité.
En général, c'est la distinction qu'il fait. Il n'aimait pas la France, enfin, il n'aimait pas sa ville natale de Grenoble, il n'aimait pas son père, surtout, il n'aimait pas son éducation, un horrible abbé qui était son précepteur. Et donc, il a rejeté la France et a idéalisé l'Italie. Et donc, il a décidé que les Français étaient vaniteux, c'est-à-dire qu'ils se conduisaient d'après l'opinion, d'après les autres, d'après la mode, et que les Italiens étaient passionnés. Ça, c'est une idée à lui, hein, complètement utopique, parce qu'en fait, les deux pays se ressemblent. Dans les deux pays, il y a des passionnés et des vaniteux, mais c'est comme ça. En Italie, c'était la passion jusqu'au crime, enfin, la chose torride, d'entier, d'absolu. Et en France, c'était toujours léger et badin.
Dans les chroniques italiennes, souvent l'amour va jusqu'au crime.
Ah ben justement, voilà, quand on aime vraiment là-bas, on tue. Et quand même, est-ce que je peux raconter l'histoire de San Francesco a Ripa, qui est tellement belle?
Ah, bien sûr.
C'est une nouvelle des chroniques italiennes, qui est un de ses livres les plus connus, les plus brillants. C'est des petites chroniques sur des faits divers du 16e ou 17e siècle italien, dont il avait trouvé le sujet dans des papiers italiens, quand il était consul à Civitavecchia. Et San Francesco a Ripa, c'est l'histoire d'un chevalier français, chevalier de Sénécé, je crois, qui est un brillant, un homme du monde, et qui aime une princesse, Campobasso, je crois qu'elle s'appelait, qui est une femme absolue, justement, une femme italienne qui vit l'amour absolu, et qui donc est très jalouse aussi, et qui fait peser son amour sur le chevalier. Et cet amour lui pèse, parce qu'il est léger, il est français. Et donc, il s'oriente vers une autre dame, légère elle aussi, une comtesse italienne, mais qui, elle, prend ça à la légère, sans faire des drames. Et finalement, il abandonne enfin la princesse qu'il aime vraiment pour celle avec qui le plaisir est plus facile. Et alors, un soir, il entre, il se promène dans Rome, seul, et il entre dans l'église de San Francesco a Ripa, c'est une église qui est à Rome, au bord du Tibre, hein, à Ripa, ça veut dire sur la rive du Tibre, et il voit qu'il y a un service funèbre là. Alors il entre, il voit un catafalque avec des cierges, et puis il regarde, et puis il voit son nom écrit sur le catafalque. Alors quand même, il qu'est-ce qui se passe? Il ressort de l'église, et là, six assassins se jettent sur lui et le tuent, envoyés par la princesse. Mais c'est ça, l'amour absolu. La princesse jalouse, eh bien, jalouse jusqu'au bout, elle tue l'infidèle, et Stendhal, naturellement, trouve ça formidable. Il montre la supériorité du vrai amour qui va jusqu'au crime sur l'amour léger, l'amour casanovien, je dirais. Là, il se démarque complètement de Casanova.
Elle tue l'infidèle, mais on est en Italie, elle a le sens aussi du théâtre et de l'effet dramatique,
ah oui,
et donc elle organise
théâtre,
les funérailles avant le crime.
C'est formidable, ça. c'est extraordinaire, c'est une petite nouvelle, elle est moins connue que les autres, mais je trouve plus significative que toutes les autres.
Il y a une autre femme qui est Mathilde.
Mathilde. Qui n'a pas eu celle-là.
Oui, qui n'a pas eu. Oui,
mais... Là, il fait la cour. Et c'est pour elle qu'il a écrit de l'amour, hein, si je ne me trompe pas. Et pour la persuader, pour l'expliquer qu'il y a quatre sortes d'amour: l'amour passion, l'amour vanité, l'amour purement physique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? L'amour.
L'amour de tête.
Et puis, c'est là qu'il y a la fameuse théorie de la cristallisation qu'on trouve dans ce livre. Il dit que quand on tombe amoureux, c'est comme... il avait visité une mine de sel en Allemagne, et quand on met une branche dans une mine de sel, elle attire les cristaux, et elle se part comme ça de mille, comme des joyaux. Et il dit que quand, au début d'un amour, eh bien, on cristallise sur la personne, on la part de toutes les vertus, toutes les beautés. Si elle est idiote, on la trouve très intelligente. Si elle est moyenne, on la trouve très belle, etc. Ça, c'est la cristallisation. C'est un mot qui avait fortune, hein, qui est resté dans le langage.
C'est resté le...
Et puis, on décristallise. Et ça dure... La cristallisation ne peut pas durer plus de 3 ans. Hein. 2-3 ans. Hein. C'est étonnant parce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, la moyenne des mariages, c'est 3 ans, justement. Oui, les divorces se font au bout de la 3e année. C'est-à-dire quand la décristallisation est terminée et le mariage ne peut subsister, d'après Stendhal, que sur d'autres choses que l'amour. Alors sur le patrimoine, les enfants, les convenances, la société, mais la passion ne peut pas durer plus de quelques temps. Je crois que c'est assez juste. Hein.
3 ans, ça doit être... Il faudrait s'interroger sur ce délai-là, parce que moi, je discutais avec... C'est rien de stendhalien. Quelqu'un qui s'occupait des... Comment s'appelle les ONG,
Oui.
Et il disait que les gens s'engagent dans des actions comme ça, de bienfaisance, etc., mais pour un temps limité qui, en général, est de 3 ans.
Oui, mais parce que
je crois... Il passe à autre chose.
Mais hein. C'est une expérience que tout le monde peut faire. On aime à la folie un livre ou une musique, et puis au bout de 3 ans, on l'aime moins. C'est parce qu'au début, on trouve qu'il y a tout dans ce livre, tout dans cette musique, ou dans cette ville, ou dans cette personne, et puis il y a ce phénomène, cet absolu, ce paroxysme d'amour ne peut pas durer longtemps.
Alors, vous avez dit que, bon... Vous avez dit son amour pour l'Italie, les Italiens, les Italiennes, la musique italienne, tout ça. Et vous avez dit qu'il était moins aimable avec les Français. Les gens avec qui vraiment il est pas du tout aimable, ce sont les Allemands. Alors, il déteste les Allemands. Et, bon, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, les Allemands ?
Mais je sais pas. Je crois qu'il devait détester les touristes allemands à Rome. Il y avait déjà pas mal. Parce qu'il est allé en Allemagne, parce qu'il est allé jusqu'en Russie. Il a fait la campagne de Russie avec Napoléon. Il était commissaire aux vivres. Il a vu l'incendie de Moscou. Il a perdu son manuscrit, une partie de son manuscrit de l'histoire de la peinture en Russie. On ne l'a pas jamais retrouvé. Et donc, il a traversé l'Allemagne. Il a assisté à Vienne aux obsèques de Haydn. Il a écouté le Requiem de Mozart, qu'on a donné à cette occasion. Mais c'est vrai qu'il a eu pourtant un amour allemand, si je me rappelle bien. Il a eu une jeune fille qui lui a plu.
Ouais.
Mais il y a tellement de ces femmes, justement, comme il n'y en avait aucune qui durait longtemps, il y en avait énormément. Il avait besoin d'aimer, hein. C'était un tempérament amoureux, mais qui surtout était payé d'échecs, hein.
Je ne me rappelle pas s'il a eu l'amour allemand, mais je me rappelle quand même un dictionnaire, il y a des lettres qui sont un peu difficiles. Alors, W, X, tout ça. Alors, pour X, vous en êtes tiré. Mais vous avez eu une chance formidable pour K, la lettre K. Là, vous avez trouvé kangourou. Et alors, et justement, voilà. Il écrit à Adrien de Jussieu le 10 janvier 1838. On dépense de l'argent pour avoir un kangourou au jardin des plantes. Pourquoi ne pas avoir à Paris cette autre rareté, un Allemand homme d'esprit ?
C'est vache. Mais lisez.
C'est vache. Oh,
lisez la lettre X, parce qu'il y a des gens. C'est très court. Hein.
Oui, la lettre X, évidemment. Un peu plus quoi. Zélande, le Z, ça va. Et X. Alors, bon, oui, mais enfin, c'est des coquetteries d'écrivains. Enfin, bon. Pressentant qu'il y aurait un jour un dictionnaire amoureux de Stendhal, il est certain qu'il a eu ce pressentiment. Celui-ci a prévu l'embarras qu'éprouverait son auteur pour fournir un chapitre à la lettre X. Pas d'amis, pas de personnage en X. Parce que le Z, il y a un personnage On n'allait quand même pas convoquer Xerxès, Xénophon ou Xiphares, cités ça et là sans intention particulière. Aussi, Stendhal a-t-il gentiment pris les devants en adoptant pour pseudonyme, et on en parlait tout à l'heure, ça, au bas d'une lettre adressée en anglais au rédacteur de l'Examineur et publiée dans cette revue le 26 novembre 1821, les trois simples lettres suivantes, X, X, X. Trois X d'un coup, quelle générosité. Oui, quelle générosité pour les faiseurs de dictionnaires.
Oui. Ça, parce que toutes les lettres sont représentées. Hein. Et quelquefois, justement, ces lettres-là sont très difficiles à...
Oui. Alors, le kangourou, c'était pas gentil pour les Allemands. Cela dit, ça c'est très intéressant, Nietzsche est un grand admirateur de Stendhal.
Ah oui. Ben oui, pour la liberté, l'insolence, l'irrespect, l'irréligion, le défi. Oui, c'est un grand stendhalien.
Alors, vous pouvez aller plus loin sur ce thème-là, parce qu'il y a en effet un article, il y a une entrée « Liberté ». Et ce thème de la liberté, il revient constamment dans les autres articles. Et vous dites que le fond de l'esprit stendhalien, c'est en effet le goût de la liberté, ce que probablement Nietzsche a apprécié chez lui. Alors, qu'est-ce que c'est ce goût de la liberté? Comment se manifeste-t-il?
Peut-être faudrait plutôt dire le goût de l'indépendance. Parce que ce n'est pas un sens politique tellement... il faut dire qu'il détestait le régime français qui était la Restauration de son époque. La Restauration qui était terrible, une époque de répression, de censure. Et il aimait l'indépendance, c'est-à-dire être soi-même. C'est ça que je préfère chez Stendhal. C'est un des rares hommes qui ait osé être soi-même. Il appelait ça l'égotisme, ce qui n'est pas du tout l'égoïsme ni l'égocentrisme. L'égotisme, c'est le courage. Il y a un de ses livres qui s'appelle « Souvenir d'égotisme ». C'est le courage d'être soi-même, c'est-à-dire indépendant de ce que pensent les autres, de l'opinion. C'est l'ennemi du correct, du politiquement ou littérairement ou socialement correct. C'est ça. C'était quelqu'un qui était constamment... un homme qui osait dire « j'aime ceci ou je n'aime pas cela » en se moquant de l'effet que ça produirait. Et même sur sa tombe, il dit « il s'agit donc milanaise et qui adora Shakespeare, Mozart et Cimarosa ». Alors, les gens qui ne comprennent pas disent « comment il met Cimarosa sur le même plan que Mozart et Shakespeare ?» Mais oui, pour lui, il a eu plus d'émotion peut-être à Cimarosa qu'à Mozart et à Shakespeare, donc il le met... Il ose, sur sa tombe, mettre qu'il adora Cimarosa. Ça, c'est ce que j'appelle l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus... les gens sont convenus, on admire ce qu'il faut admirer. Tout le monde admire Proust sans l'avoir lu, par exemple. Et lui, il aime ce qu'il aime. En peinture, c'est la même chose. Un de ses peintres préférés, qui a déclenché en lui le fameux syndrome de Stendhal, c'est-à-dire c'est une espèce d'évanouissement devant la beauté, c'était provoqué par un peintre que nous jugeons très mineur, qui s'appelle Volterrano, qui est à Florence, à Santa Croce, sur des sibylles dans une petite chapelle. Et il dit que quand il a vu ça, il a eu un vertige, il s'est senti mal dans ses bottes, il s'est presque évanoui. Et au point que, longtemps, aux offices, il y avait une infirmerie pour soigner les gens frappés de ce syndrome. Il y a trop de beauté, on est complètement étourdi, on se sent mal. C'est très beau comme idée. Et ça s'appelle le syndrome de Stendhal. Et il est provoqué non pas par Botticelli ou Michel-Ange, mais par Volterrano, qui nous paraît un peintre, qu'il y en a beaucoup comme ça en Italie. Mais simplement, il a vu ses quatre sibylles. Peut-être l'une lui rappelait une de ses maîtresses. C'est possible. Parce qu'en peinture aussi, il aimait les peintures de jolies femmes, hein, plus que la peinture elle-même. Mais c'est ça, être indépendant, être libre, c'est ne dépendre que de soi, que de son propre goût, ne pas tenir compte des autres. C'est pour ça qu'il y a une insolence et une modernité. Ce qui vieillit très vite, c'est justement ce qui est convenu, ce qu'on attend de quelqu'un. Lui, on est toujours surpris de ce qu'il pense, parce qu'il pense lui-même. Et c'est rare, en tout le temps. Hein, et...
Dans le dictionnaire, le fond de l'esprit stendhalien, vous le définissez ainsi, l'ironie, l'insolence, l'absolue rébellion à tout ce qui ressemble à l'embrigadement et au mot d'ordre. C'est dans l'article mystification, et c'est notamment pour contester l'interprétation qu'ont pu faire de Stendhal. Alors, deux catégories de stendhalistes ou de stendhaliens, je ne sais pas, c'est-à-dire la psychanalyse et le marxisme, et notamment Aragon, qui pourtant a dit des choses assez intelligentes sur Stendhal, non ?
Oui, sur Roger Noir, surtout. Oui. C'est vrai que c'est vraiment sur la lutte des classes, si on veut, parce que c'est le pauvre provincial, qui, très pauvre, fils du charpentier, Julien Sorel, qui conquiert la haute société, d'abord d'un Verrières, et puis surtout à Paris, avec Mathilde Hamol, qui est la fille d'un grand seigneur français, et avec une tension, une âpreté, et ça finit mal, comme vous savez. On peut dire que ça lui déclasse en forçant un peu, mais enfin, c'est très difficile d'embrigader politiquement Stendhal, parce qu'il disait républicain et démocrate, mais il disait « j'aime beaucoup le peuple, mais à condition de ne pas vivre avec ». Et il disait « s'il faut faire la cour à mon cordonnier, alors ça, je n'en suis pas ». Il avait deviné ce que c'était que les campagnes électorales. Et donc, c'était, je crois, un aristocrate de cœur, d'esprit, un homme du XVIIIe siècle, d'ailleurs, c'est un homme du XVIIIe plutôt. Mais en même temps, il était contre la haute société de son temps, qui était très rétrograde, très réactionnaire. Et donc, il était du côté des républicains. Mais vous voyez, il est très contradictoire, justement, parce que comme il n'obéit à personne, il vit en lui-même, il concilie, enfin, il supporte les contradictions en lui-même.
À propos d'Aragon, vous écrivez ceci, il est comique de lire chez Aragon, ouvrez les guillemets, donner 6 ans de plus à Stendhal, mort en 1842, qu'il puisse lire le manifeste de Marx et Engels, qui est lui de 1848. Croire, alors là c'est Fernandez qui parle, croire ou faire semblant de croire que la philosophie politique de Stendhal va comme un gant au prolétariat, que l'amoureux des Happy Few se serait rallié sans sourciller au matérialisme historique, point d'exclamation.
Oui, oui, ça c'est complètement, complètement fou de la part d'Aragon, parce que évidemment Stendhal était fondamentalement quelqu'un toute sa vie le prouve, tous ses goûts, tout ce qu'il fait, c'est pas du tout il était pas du tout proche de ce qu'on appelait le peuple.
Alors pour aller peut-être alors de l'autre côté, un peu du côté des psychanalystes, et puis du côté de vos thèmes de prédilection dans l'ensemble de votre œuvre, vous venez de dire qu'il aimait bien les tableaux où il y avait de jolies femmes. Mais il y a un tableau, alors je ne sais plus quel est le peintre, en tout cas un Ganymède, ou un Zeus enlevant Ganymède, ouais. qu'il a retrouvé à plusieurs reprises dans sa vie. Et là, il y a une entrée homosexualité, où vous expliquez que, à la différence de Flaubert, par exemple, n'est-ce pas, il n'a certainement pas eu de relation avec des garçons. Mais vous en faites, d'une façon générale, dans l'ensemble de son œuvre, et notamment à partir de l'interprétation que vous donnez d'Armance, vous en faites ce qu'on appellerait aujourd'hui un gay-friendly, n'est-ce pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt sympathique à l'homosexualité, avec les précautions d'usage à cette époque-là.
Oui, mais il y a plusieurs indices. Il n'y a pas de preuves, mais il y a des indices quand même très sérieux. D'abord, il s'en prend violemment à un critique qui parlait des mœurs infâmes d'Antinoüs et d'Adrien. Vous savez, Antinoüs, c'est le favori d'Adrien. Et il dit, c'est ridicule de dire ça, il n'y a rien de plus noble que cet amour, etc. Et puis, il y a un autre passage qui est très beau, où il dit, nous admirons les statues grecques en condamnant les sentiments qui les ont inspirés. Tout est dit, là. Tout est dit. Et puis, il raconte qu'une fois, il était dans une calèche avec un jeune officier russe, très beau, et qu'il dit, si j'avais été une femme, ben, je l'aurais désiré. Mais vous voyez, c'est une façon de dire qu'il le désirait. Enfin, ça veut dire que c'était une femme. Ça, c'était une espèce de... Et puis, à Armance...
Il dit aussi que... Armance, il dit même que Napoléon avait un faible, c'est son expression, avait un faible pour un de ses officiers.
Ça, c'est avéré, ça.
Oui.
Il a une expérience avec Junot. Mais il y a surtout le roman Armance, qui est grand mystère. Armance. C'est son premier roman, en 1826. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Octave de Malivert, qui est jeune, beau, fortuné, fils d'un seigneur parisien, et il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Armance, qui est une jeune fille pauvre, elle. Et elle l'aime en retour, enfin, c'est un couple parfait, mais il y a un mystère, parce que rien ne se passe. Il fuit, et à la fin, il y a un mariage, mais qui n'est pas consommé. Et il s'en va tout seul mourir en Grèce. Et il y a un mystère total. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait chez ce garçon qui l'empêchait d'accomplir, enfin de réaliser, de donner une contrepartie concrète au sentiment qu'il éprouvait certainement pour cette jeune fille ? Il y a eu les Stendhaliens aussi,
D'une seule voix,
on explique ça, ce garçon est impuissant. Et d'ailleurs, il y a une lettre de Stendhal à Mérimée où il semble confirmer cette hypothèse. C'est un impuissant, ce qu'on appelait un babylan à l'époque, c'est un très joli mot, du nom d'un seigneur de Gênes qui était frappé de cette infirmité, qui s'appelait Babylano. Ce mot a disparu, c'est dommage aussi, c'est un joli mot, Babylon, plus joli qu'impuissant. Mais moi j'ai des doutes, j'ai vraiment lu ligne à ligne ce roman, et il y a pas mal d'indices, de signes, d'éléments qui m'induisent à penser que ce n'est pas un impuissant, mais que c'était un homosexuel inconscient peut-être, de l'être, refoulé. Mais ça explique son blocage devant les femmes. Et ça serait évidemment... De toute façon, le sujet était très moderne dans les deux cas, parce que personne pratiquement l'avait traité. Et dans le second cas, c'est encore plus moderne, évidemment. Il faut se rappeler qu'à cette époque, c'était un sujet totalement tabou, impossible d'en parler, même par allusion.
Or, Stendhal, en écrivant « Armance », entendait tracer un tableau satirique de la société française sous la Restauration. Il a donc choisi pour être l'interprète de cette satire un marginal. Nul n'est mieux placé, ni plus indiqué, pour dénoncer les tares et les ridicules d'un milieu que celui à qui ne profite aucun des avantages procurés par ce milieu. Ce n'est pas le côté anomalie sexuelle qui a intéressé Stendhal. Le hors-la-loi du sexe est le marginal type. Il symbolise au plus haut degré la marginalité. C'est donc par ses yeux d'exclu, de paria, qu'on aura la distance maximale de la réalité à décrire. Voilà. C'est celui qui a écrit La gloire du paria qui signe
oui,
ça.
Oui, mais c'est pas. Mais c'est ce que disait Gide aussi. Il disait que ce qui est intéressant chez l'homosexuel, c'est pas ses préférences sexuelles, ça c'est très secondaire. C'est comme c'était un marginal exclu de la société, enfin un marginal, marginalisé en tout cas, il a une vue critique sur la société. Il n'est pas complètement intégré, il n'est pas. Les valeurs de la société ne sont pas les siennes, il n'a pas sa place, donc il peut juger mieux. Et comme c'est un livre, justement, Armance, c'est un roman qui décrit la société de la restauration, c'est un livre merveilleux, hein, d'ailleurs, c'est un livre vraiment, ça, c'est... Je pense que c'est pas... Comment l'interprétation peut être acceptable.
Elle est recevable, oui. Est-ce qu'on peut parler quand même, et puis après on donnera la parole au public s'il a des questions à poser. Je voudrais qu'on parle un peu de musique. On en a
pas
un peu parlé. Alors vous avez simplement dit que c'était une preuve de grande liberté d'esprit de mettre Cimarosa et Mozart sur le même plan. Il aime la musique, mais enfin. Vous l'avez dit, il aime Mozart plus que tout, Cimarosa à l'égal de Mozart, et puis alors il n'aime pas du tout la musique de ce... Il dit des choses sur Bellini absolument stupides.
Oui, mais c'est étonnant,
il n'aime pas
ça.
La musique de son temps, si. Ni la musique du XVIIe siècle. Il aime vraiment un homme du XVIIIe.
Oui, mais Rossini quand même. Hein.
Ah, Rossini, oui.
Il a écrit quand même un gros livre sur Rossini. Qui était l'homme qui avait le plus de succès à son époque. Le Marais de Séville, c'est 1815, donc c'était vraiment les années de... Il aimait la musique vocale, il n'aimait pas la musique instrumentale. C'est pour ça qu'il n'aimait pas les Allemands non plus, parce qu'en Allemagne, commençait à se développer avec Beethoven la symphonie, le quatuor, et ça, il avait horreur de ça, il trouvait que c'était du bruit. Il aimait la musique vocale et surtout chantée par les femmes. Hein. Toujours, on revient toujours à ça, c'était... Et donc, chez Rossini, il trouvait ces arias et élégiaques, et c'est ça qu'il aimait par-dessus tout. Ce qui est étonnant, justement, c'est qu'il n'ait pas aimé Bellini ni Donizetti, qui ne sont pas très proches, au fond, de Rossini, par c'est le bel canto. Et ça, il n'a pas compris. Mais il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas comprises, mais ça ne fait rien, je dirais. Il ne cherchait pas à être du tout objectif et à peser les vraies valeurs de son temps. Il aimait Rossini, il n'aimait pas Bellini, puis voilà.
Et quand même, avec la musique allemande, il est une injustice totale.
Oui, totale.
Et d'ailleurs, l'auteur du Dictionnaire amoureux écrit « Une telle partialité enchante ».
Oui, mais oui, moi, c'est ça que j'aime chez Stendhal, c'est que il n'aime pas ça. Aujourd'hui, personne n'oserait dire qu'il n'aime pas Beethoven. Il aurait peur de paraître idiot. Ben lui, oui, il n'aime pas Beethoven. Je trouve ça très mauvais, puis il le dit. Voilà. Je trouve ça épatant, moi. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ajoute, il y a une espèce la musique, le spectacle en général, est devenu une sorte de religion. Il n'y a aucune liberté dans le public, je veux dire. On admire tout, on applaudit à tout, même quand c'est très mauvais. Au 19e siècle, ça c'est Dumas qui le raconte, si la chanteuse, par exemple, avait mal chanté son air, à la fin, toute la salle criait « Torna a casa !»« Retourne chez toi !» C'est terrible. Et moi-même, à la Scala, il y a une dizaine d'années, il y avait un opéra de Donizetti, il y avait un duo entre deux hommes, un ténor et un baryton, qui était médiocre. Quelqu'un du poulailler a crié « Cani !» Chien. Mais on ne voit pas ça en France. Donc, même s'il y a ça encore un petit peu en Italie, qu'est-ce que ça devait être en 1820, en 1830? Et donc, il y a cette espèce de dédain de ce qu'il faut penser. Et ça, je trouve ça... C'est une leçon, je trouve. Regardez aujourd'hui, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais quand même, il y a une exposition d'un peintre américain qui s'appelle Hopper.
Ah oui.
Bon. Un bon peintre, hein. C'est pas un génie absolu, mais enfin, c'est très bien. Mais enfin, il y a 6 mois, personne ne connaissait le nom de ce peintre. Tout d'un coup, il y a eu une campagne de pub, une pression médiatique, et les gens sont crus obligés d'aller voir Hopper. Il y avait tous les jours 3 kilomètres de queue devant le Grand Palais. C'est indispensable. On ne pouvait plus vivre sans avoir vu Hopper. Et ça, Stendhal, ça leur a fait mourir de rire, ça, vous voyez. Alors, tout ça ridicule, cette attitude. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, on crée la pression médiatique, maintenant très, beaucoup plus forte et habile, évidemment, que dans Stendhal, arrive à vous forcer à aller admirer des choses qui vous sont vraiment égales, auxquelles vous pourriez très bien vous dispenser. Et ça, Stendhal, c'est vraiment le contraire de ça, justement. Alors, il n'aime pas Beethoven, ça, il trouve que ça bruyant, la grosse caisse, tout ça. Puis, il n'y a pas de voix, alors ça il trouve que c'est pas de la musique, voilà.
Juste une dernière question.
Oui.
Il y a une entrée style. Et effectivement, le style de Stendhal, les Stendhaliens, les Stendhalistes, et puis tout le monde, admire les qualités, les traits spécifiques à ce style, et qui sont la rapidité, l'allégresse, l'ellipse. Il écrit à toute allure, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas votre façon d'écrire à vous, tout à fait.
Ah oui, non.
Quoi?
Non,
pas du tout. Alors, vous admirez quelqu'un qui écrit différemment. Vous admirez, mais vous admirez cette espèce d'emportement et de,
oui, moi
de liberté.
Il a dit comme cette chose merveilleuse, que je cite, les chefs-d'œuvre, les grands chefs-d'œuvre ont été faits sans penser au style. Enfin, c'est vraiment l'anti-Flaubert, hein, qui ne pensait qu'à ça, lui, qui répétait ses phrases, qui... Sans penser au style, c'est vrai qu'il n'y a pas de... À la rigueur, il n'y a pas de style. Il écrit merveilleusement, mais il n'y a pas de style. Chateaubriand, on connaît tout de suite, Proust, Flaubert...
Chateaubriand, il le déteste.
Il déteste Chateaubriand. Il détestait Hugo aussi. Ça lui paraissait enflé, tout ça, boursouflé, littéraire. Moi, ce que j'aime en Stendhal, c'est que jamais il ne prend la posture de l'écrivain. Jamais il ne dit « Regardez comme je suis écrivain, comme j'écris bien ». C'est Flaubert, tout de suite... C'est un monument, il faut entrer comme ça, Proust. Lui, on a l'impression qu'il cause avec nous. C'est comme un compagnon, on discute avec lui. On n'est pas de son avis, mais ça n'a aucune importance. C'est un dialogue permanent. Ce n'est pas une attitude d'intimidation devant un chef-d'œuvre. C'est ça que j'aime. D'ailleurs, il disait, j'imite le code civil, c'est-à-dire un style neutre. Mais, en fait, c'est pas vrai, parce qu'au civil, c'est plat, et lui, c'est jamais plat. Mais il y a beaucoup de répétitions, par exemple. Il y a quatre fois le mot affreux dans une page à Chartreuse de Parme. Il trouvait pas d'autre mot, il a mis affreux. Et ça ne gêne pas. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, parce que il écrit vraiment comme il pense. D'ailleurs, il a écrit la Chartreuse, vous savez, en 52 jours, sans s'arrêter. Il a dicté. C'est un exploit qui n'a jamais été imité. Jamais dans l'histoire de l'humanité. 52 jours, un roman de 600 pages. Il pensait à haute voix, en quelque sorte. Il ne sépare pas le travail, l'écrivain et l'homme qui pense, qui est ému, qui réfléchit. C'est la même chose. Il n'y a pas de posture d'écrivain. Et ça, c'est unique. Regardez Aragon, alors c'est le contraire, par exemple.
Mais cela dit, quand vous écrivez à propos de son indifférence, voire son hostilité à propos de la musique allemande, une telle partialité enchante, on peut dire que le dictionnaire amoureux de Stendhal par Dominique Fernandez n'est pas dépourvu lui-même de partialité par moment. Parce qu'alors, à propos du style, ce pauvre Giono... Qu'est-ce que vous lui passez, n'est-ce pas? C'est d'une injustice totale à mes yeux, car le hussard sur le... Enfin, en effet, les spécialistes, là aussi, je ne sais pas s'il y a les légionniens, les légionistes, les légionnaires, ce qu'on voudra, mais distingue deux périodes, notamment une période qui, à partir du hussard sur le toit, serait une période stendhalienne. Bon, c'est une distinction qu'aujourd'hui tout le monde récuse, mais il est vrai que le hussard sur le toit peut faire penser assez clairement à Stendhal. Mais alors, vous assassinez Giono, justement, vous assassinez le style de Giono,
oui,
auquel vous reprochez, ce qu'il reprochait à Chateaubriand, les métaphores, le côté...
Il fait du style, Giono. C'est très difficile de ne pas faire le style quand on est écrivain, c'est ça. On n'est pas innocent, quand on se met à écrire, on sait qu'on écrit quand même. Lui, il a l'impression qu'il ne savait pas. C'est pour ça qu'il y a tellement de petits fragments, il écrivait un peu partout, comme ça, et que il a terminé très peu de livres, en fait. Très peu.
Jean Cayrol m'avait dit un jour, écrire bien, ce n'est pas bien écrire.
Oui, oui, mais c'est, ben ça n'arrive plus beaucoup à Stendhal, ça.
Voilà, je voudrais dire que le dictionnaire amoureux de Stendhal, de Dominique Fernandez, de l'Académie française, comporte 820 pages, et donc bien, bien d'autres richesses que celles que nous avons rapidement évoquées ce soir. Merci, Dominique.
Merci à vous.